Eh bien, bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde, nous sommes en direct. Je remercie à la technique, c'est un baptême du feu pour lui. Aujourd'hui c'est Mickaël qui sera le technicien grâce à qui eh bien, nous émettons, hein, grâce à qui nous pouvons nous exprimer, nous ne pourrions rien sans nos techniciens. Donc on le remercie d'avance à la technique pour la réalisation de cette émission, Mickaël. Nous aurons dans le au standard de Radio Courtoisie Patrice normalement qui est là et qui pourra répondre à vos interrogations, remarques, observations en tout genre. N'hésitez pas, soit par téléphone, si ça ne répond pas, vous envoyez un courriel électronique, ou ceux qui veulent directement passer par courriel électronique, ça sera aussi bien, si vous le pouvez bien sûr. Ils me seront transmis ainsi qu'à mon invité et nous ne manquerons pas de vous répondre souvent après le bobino de 45, de 9h45, mais on peut commencer les questions avant et pas trop tard, parce que bien sûr si vous envoyez les questions à 10h25 et que nous rendons l'antenne pour le livre journal des controverses à partir de 10h30 de Mike Borowski, ça sera trop tard et je ne reviendrai pas dans l'émission de Mike pour répondre à ces questions. Donc il faut quand même envoyer relativement tôt vos questions, n'hésitez donc pas. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, chers auditeurs, c'est la Chine, le rayonnement de la Chine, puissance d'équilibre, je ne sais pas, mais puissance incontournable. Que la Chine aujourd'hui, nous le verrons dans ses relations aussi bien avec l'Europe, avec l'Ukraine, avec l'Iran, la Chine, et la Chine non seulement est influente, elle fait parler d'elle-même quant aux décisions qu'elle prend sur l'unicité ethnique par exemple, qui fait réagir un Occident que l'on sait multiculturel et profondément décadent. Alors bien évidemment, la Chine et le régime chinois, c'est pas vraiment la tasse de thé de l'Union européenne, c'est même un opposé presque autant que peut l'être la Russie de Poutine. Voilà, je voulais, avant de présenter notre invité du jour que vous connaissez, il vient relativement souvent pour nous parler de la Chine dans ses émissions de Radio Courtoisie, faire un rapide hommage à un patron d'émission qui nous a quittés, qui a été longtemps patron d'émission sur Radio Courtoisie, c'est Henri Dubost. Henri Dubost est parti vers l'autre monde. Il est décédé cette semaine. Donc, je rappelle Henri Dubost, qui contribue au bulletin de réinformation de Jean-Yves Le Gallou. Outre son bulletin mensuel, il en assurait avec son épouse certaines reprises hebdomadaires qui étaient dénommées le kiosque courtois. Il assurait également le fonctionnement du libre journal de l'identité, qui était diffusé un vendredi sur quatre, le livre journal de l'identité dont il était le patron d'émission, Henri Dubost, voilà, pendant de nombreuses années. Eh bien, un hommage à Henri Dubost, que vous étiez nombreux à écouter et à apprécier sur les antennes de Radio Courtoisie. Voilà, nous revenons vers notre sujet du jour avec notre invité, qui n'est autre que Laurent Michelon. Laurent Michelon comprend de la relation Chine-Occident, c'est son livre, avec une réédition d'ailleurs dernièrement. Bonjour mon cher Laurent.
Bonjour Nicolas. Et puis merci de m'avoir à nouveau sur ton plateau.
Ben oui, mais puis on t'a là en chair et en os. Tu es là, tu n'es pas à l'autre bout de la planète.
Exact.
Comme c'est souvent le cas.
Exact. Ben, une petite semaine à Paris. Ouais. Et puis ça fait toujours plaisir de voir les amis. Donc merci à nouveau de m'avoir.
Tu es une sorte t'es un expatrié en fait en quelque sorte.
Oui. Ça fait 26 ans maintenant.
Ah, quand même.
Que je suis en Chine, dans différentes régions de Chine, mais 26 ans en tout.
Ouais.
Donc, ça finit par Parfait. Hein.
Oui, c'est certain.
Et
oui.
C'est pour ça que ça fait de plus en plus plaisir de rentrer en France pour des congés de plus en plus longs et on espère une pré-retraite prochaine en France.
Oui.
Oui.
Parce que tu as conservé amis, famille en.
Oui, bien sûr. J'essaie de revenir régulièrement pour garder le lien. C'est important de.
Tout à fait.
De rester proche et puis de rester informé sur ce qui se passe en France parce que. Il va falloir que tout ça change. Donc
Est-ce que ça va finir par changer?
On l'espère.
Là, ça semble être la fin d'un double quinquennat, mais on ne sait pas hein, avec Macron.
Oui, et puis si, on peut avoir des surprises.
Attention aux fausses pistes. Hein. Actuellement, il est en train de nous expliquer qu'il veut, qu'il aimerait aller travailler chez Niel, qu'il ne veut plus faire de politique. Mais ouais. il faut savoir que juste avant de se présenter à l'élection présidentielle, il expliquait en 2016, je crois, fin 2016, qu'il allait fonder une start-up.
Oui, et puis il voulait aussi être prof à un moment, avant sa carrière politique, il disait qu'il voulait enseigner dans une fac ou des choses comme ça, et puis en fait...
Oui, mais ça encore, peut-être l'a-t-il voulu à un moment donné, mais c'est-à-dire qu'en plus il ment effrontément. Ce sont des fausses pistes, il cherche à masquer ses véritables intentions, et je pense que quand il dit « je ne ferai plus de politique », il masque ses intentions, on ne le croit pas une seconde.
Non, bien sûr, bien sûr.
On sait très bien qu'il, de toute façon, déjà il fait une campagne européenne aujourd'hui, clairement.
Oui.
Alors, il n'est plus, on sent bien que la France est vraiment le dernier de ses soucis, il a toujours utilisé les institutions, les hommes, comme des marchepieds, il l'a fait avec... Hollande, il l'a fait avec les différents ministères pour accéder à la présidence de la République, et maintenant il se sert de la présidence de la République de la France comme un marchepied.
Absolument, absolument.
Il est sans foi ni loi.
C'est un peu un marqueur de toute la classe politique depuis pas mal d'années. On voit que tout ce qui les intéresse... Déjà, le mot de France disparaît de plus en plus dans leur discours.
Ah, complètement.
Voilà, et en fait, ils...
C'est
ils
notre ont, Europe, nous, voilà. Nous les ils Européens. Des,
voilà, exactement. Alors, parfois, ils se mettent sous un déguisement souverainiste, parce qu'ils se réclament du gaullisme, des choses comme ça, mais c'est uniquement pour, effectivement, accéder à des fonctions suprêmes, soit dans des organisations internationales prestigieuses, ou alors à l'Union Européenne. La France est utilisée comme un tremplin pour des ambitions personnelles, en fait.
Vous en avez une comme ça, elle s'appelle Christine Lagarde. Bah
exactement, je pensais à elle.
Oui, je pensais à elle. Bah,
ouais, exactement.
Et elle dit qu'elle va, on se demande si elle ne va pas devenir la roue de secours de la Macronie, d'ailleurs. Parce que
c'est très possible.
On n'a pas l'impression que ni Édouard Philippe ni Gabriel Attal n'ont... quelconque espoir de pouvoir contrer celle qui est. C'est un peu la nouvelle que l'on a eue, et tu étais en France justement lorsque tu as appris que Marine Le Pen finalement
pourrait se présenter.
Voilà, va se présenter, en tout cas se présente.
On verra ce que dit la justice dans quelques mois. Mais...
La justice, à mon avis, il n'y aura pas de problème, c'est le Conseil constitutionnel. Oui. C'est-à-dire au dernier moment, il pourrait refuser sa candidature, ça serait quand même assez incroyable. Mais...
On n'en est plus à une violation du principe démocratique.
Ils l'ont fait en Roumanie, la BEA qui fait partie de l'Union Européenne.
Hein. Oui. Et puis Fillon,
carrément, François Fillon, coup d'État judiciaire.
Voilà.
Donc là, pourquoi pas, et puis ce sont des fidèles parmi les fidèles de la Macronie qui dirigent le Conseil constitutionnel aujourd'hui.
Absolument, il a bien mis ses hommes en place, justement pour préparer sa transition.
C'est ça, Richard Ferrand, mon Dieu, président du Conseil constitutionnel, ce type-là, cet assureur qui n'est pas repris de justice pour une question pas d'immunité, mais
un vice de procédure ou
Lorsque c'est passé, lorsque c'est trop loin.
Ah oui, prescription.
Prescription, ouais, merci. Ouais. Voilà, merci Laurent Michel pour une question de prescription.
Ouais.
Voilà. Bon. Et Alain Juppé, membre du Conseil constitutionnel, repris de justice.
Ouais, ah oui,
il a trahi le peuple souverain, on dit les juges.
Ouais.
Et c'est ça les sages qu'on nous présente, et c'est ça qui va juger de l'élection suprême en France, qui est l'élection présidentielle. C'est à se poser des questions. Bien, alors, donc Marine Le Pen sera présente, donc Emmanuel Macron va, à mon avis, tout faire pour saboter et parasiter cette élection présidentielle. À mon avis, il a deux moments où il pourrait le faire. On a appris là dernièrement qu'il avait fini par donner les dates des élections présidentielles
D'accord.
de 2017. Et le second tour, tiens-toi bien, c'est le 2 mai, c'est-à-dire le lendemain du 1er mai qui tombe un samedi.
Ouais.
Alors, imaginons un deuxième tour Mélenchon-Le Pen, ou de toute façon Le Pen au deuxième tour.
Oui.
On va avoir toute la gaucherie, toute l'extrême gauche, toute la crasse, là, ouais, dans toutes la les antifas ouais. européens qui vont venir se déverser
exact.
La veille.
Ouais.
Un jour où normalement on n'est pas censé parler politique et où ils ne parleront que de ça dans les rues de Paris.
Bien sûr, bien sûr.
Ils sont violents. C'est en plus, bien. On le voit, cette campagne va être violente.
Mmh, tout à fait.
Ce sont des violents, les filles. Hein, il faut pas se leurrer hein, là-dessus. Hein. Quelles que soient les positions de Mélenchon sur la politique internationale, sur le plan national, c'est un.
Oui,
il hait la France. Il hait ce que représente la France.
Exact, exact.
Donc, il a deux options, à mon avis, Macron, pour saboter l'élection. Il y a en effet, in fine, juste avant le second tour, ou avant, avec. Ce risque de moment bismarckien, hein, c'est-à-dire ce moment où on va essayer de faire l'Union européenne, la fédérer au travers d'une guerre, guerre contre la Russie.
Exact, exact.
Tu le crains, ça, cette
escalade, ce dérapage ? Je pense que là, l'escalade est de plus en plus inévitable, dans le sens où on voit que la Russie, même en Russie, la population russe commence à réclamer en fait un acte fort. Parce que là, il y a des bombardements de raffineries très à l'intérieur des terres, même à l'est du pays. Ils utilisent le Kazakhstan, ils utilisent d'autres pays comme plateforme de décollage de leur drone suicide. Il y a effectivement, tous ces drones leur sont donnés par l'Union européenne, différents pays, que ce soit l'Allemagne, le Portugal, la France. Tout ça, c'est gratuit. Des drones suicides pour attaquer la Russie. Donc nous sommes en fait de facto co-belligérants. Maintenant, la décision vient à la Russie de choisir où est-ce qu'elle va frapper. Mais je pense que le fait qu'elle va devoir frapper fort, c'est de plus en plus inévitable. Alors ça peut se faire, je pense pas, sur l'Europe de l'Ouest, parce que là, ça serait une escalade trop rapide. On a vu un plateau TV en Ukraine d'intervenants et de journalistes qui disaient qu'une frappe nucléaire, même tactique, sur l'Ukraine,
ouais.
serait la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Ukraine. Donc on voit que des Ukrainiens réclament que leur pays se fasse atomiser pour justement pousser l'Occident à passer à l'étape suivante. Voilà, on voit que la Pologne se désengage de son attachement préliminaire à l'Ukraine. On a vu qu'ils ont retiré ses médailles à Zelensky et à son état-major. Donc je pense que la Pologne a réussi à se sauvegarder. Finalement, elle ne sera probablement pas une cible, alors que c'était quand même une grande possibilité. Et je pense que ça va être les États baltes. Il y en a un des trois qui va
morfler.
Qui va prendre. Ben oui, on a vu. Je ne sais pas si vous avez vu récemment. Je crois que c'était il y a deux semaines.
Non, il semblerait qu'ils ouvrent leur couloir aérien déjà aux drones.
Ben déjà. Oui. Alors voilà. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est
qu'ils frappent Saint-Pétersbourg.
Exactement. Et il y a les deux. Vous savez, les deux comiques russes.
Oui.
Lexus et
je sais plus. Evova ou je sais pas quoi. Ouais.
Qui ont piégé le ministre des Affaires étrangères estonien en lui faisant croire qu'il était en train de discuter avec un membre du cabinet Zelensky. Et il leur a dit que les préparatifs pour la frappe sur Saint-Pétersbourg étaient en bonne marche. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre quand même extrêmement au sérieux. Et Vladimir Poutine disait récemment dans un forum, il disait le problème c'est que l'Union européenne pousse comme ça à la provocation, mais ils ont absolument aucun système de repérage de missiles, les early warning systems, ils disent ils en ont pas. Donc quand ils vont voir nos missiles arriver, ils vont les voir quand ça va être trop tard. Donc pour que Poutine parle comme ça dans un forum, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est, je pense, nécessaire d'un point de vue russe, parce que là, il y a une escalade. On est de plus en plus impliqués dans des attaques sur le territoire russe. Et on imagine bien qu'un État souverain ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire. La colère monte dans la population russe. On sait que Poutine passe beaucoup de temps à calmer les gens qui sont plutôt radicaux. Mais il va falloir donner des gages un peu à tout le monde. Donc, je pense que c'est ce qui est voulu de toute façon par l'OTAN et par notamment les pays qui soutiennent le plus cette agression, dont malheureusement la France.
Ouais.
C'est qu'on arrive à une situation militaire qu'on pourrait qualifier d'agression non provoquée russe. C'est toujours le même modus operandi, c'est de pousser l'adversaire dans une position où il doit répondre à de multiples provocations, et ensuite, une fois qu'il a répondu, on dit c'est une agression non provoquée.
Mais alors, pour aboutir à quelle situation ? Une sorte de drôle de guerre, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui, en tous les cas, en Europe, de contrer la puissance russe.
Non, mais là, je pense qu'on est en train de tester la résolution, enfin, la détermination de la Russie, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de retenue. On a vu que l'armée russe s'est retirée de Kiev suite à une tromperie dans les négociations. On a fait
tout début de l'opération spéciale de février 2022.
Ça aurait pu être fini il y a longtemps, cette histoire. Voilà. Et là, je pense que ça a envoyé le mauvais signal et que dans l'OTAN, les gens pensent que en fait, la Russie bluffe, la Russie n'a pas les moyens. Et donc, ça va être à la Russie de prouver qu'en fait elle est un acteur sérieux sur lequel il faut compter et dont il faut se méfier. Et je pense qu'une l'escalade prochaine vers laquelle on va, ça aboutira probablement vers ensuite une position de gel, parce que là l'OTAN va se rendre compte que les Russes sont sérieux et on va rentrer dans une nouvelle guerre froide en fait avec la Russie. Et on le voit même au niveau français où il y a vraiment des... on a vu là récemment au niveau français et européen cette offensive sur les gens, sur le peuple, pour les gens qui retweetent des choses, des contenus de Russia Today ou Sputnik, oui. Ces gens-là peuvent être attaqués en justice maintenant,
alors,
en Europe.
Est-ce qu'il va y avoir un resserre? Est-ce que si nous rentrons dans une forme de drôle de guerre, de guerre froide, mais drôle de guerre au sens où, entre 39 et 40, on était en guerre contre l'Allemagne, voilà. Mais il ne s'est rien passé. Donc là, à mon avis, c'est la même chose, c'est-à-dire ils sont en train de réarmer,
oui.
Ils sont fous, ils iront jusqu'à la guerre totale, peut-être guerre nucléaire à terme,
oui.
Mais je pense qu'ils aimeraient pour le moment déjà rentrer dans une espèce de situation de guerre, même si elle n'a pas d'incidence massive, de guerre de haute intensité, parce que c'est vrai, on n'en a pas les moyens, mais qu'elle pourrait permettre, par contre, c'est ce que vous venez de commencer à initier comme réflexion, c'est-à-dire le resserrement de la liberté d'information, de liberté d'expression. Est-ce qu'il ne pourrait pas en tirer tous ces dirigeants très impopulaires? Starmer, ça y est, il semble qu'il va dégager. Mais Merz, mais Macron,
oui.
C'est-à-dire la profonde impopularité qui est la leur, au sein, et puis d'autres, au sein de leur peuple, le rejet massif de van der Leyen et de l'Union Européenne par les peuples aussi. Est-ce qu'ils ne vont pas en tirer bénéfice de cette situation de drôle de guerre pour, à ce moment-là, eh bien, asseoir un système totalitaire, créer cette Europe fédérale, cette Europe unifiée avec une armée européenne, une diplomatie, une intégration complète européenne, en disant, voilà, nous sommes en danger. Or, nous, chacun, vous savez bien, c'est toujours le même argument qui est développé, nous sommes trop petits pour lutter contre l'ogre qui mange des enfants dès le matin, qui est la Russie. Donc on n'a pas le choix. Et pousser à ça, et donc avoir, en fait, par malignité, par ruse, dès le début, chercher ces provocations à vis-à-vis de la Russie, parce que ça les arrange, parce que c'est le seul moyen pour eux, pour l'oligarchie mondialiste financière qui domine en Europe, de se maintenir.
Tout à fait. Et on voit même au niveau législatif, il y a une loi qui, depuis 2023, est en discussion au Parlement européen. Elle est votée régulièrement, elle est repoussée, retoquée régulièrement, mais ils reviennent à nouveau dessus. Et c'est une loi qui s'appelle Chat Control, je crois, et qui donne la possibilité aux autorités de tous les pays européens d'avoir accès à absolument toutes les conversations sur les téléphones. Et ça, cette loi, depuis 2023, est retoquée. Ils continuent de la voter et ils vont la voter jusqu'à ce qu'elle passe. Donc, on se pose des questions sur le processus démocratique. Si la démocratie, c'est finalement la dictature où on fait voter les gens jusqu'à ce qu'ils votent bien, finalement, c'est juste une dictature avec moins d'efficacité qu'une vraie dictature. Parce qu'on fait semblant de respecter un processus électoral et qu'on dévoie jusqu'à ce que finalement ils donnent les résultats et les résultats escomptés. Donc effectivement, une petite escalade là, même mineure avec la Russie, ça permettrait de mobiliser la population derrière, parce qu'on se sentirait agressé et là on aurait une manifestation physique de l'agression. Ça justifie des budgets comme ceux qui sont votés en Allemagne, en France pour le réarmement. Et effectivement, on met le contrôle sur la population et ça permet ensuite de pointer du doigt toute personne qui va avoir un discours différent. Là, on peut dire vous faites de l'intelligence avec l'ennemi, parce que là maintenant nous sommes en guerre. Donc retweeter quelque chose de RT, de Sputnik, ou même dire le récit officiel sur la Russie est faux, eh bien ça serait criminalisé. Et on le voit déjà maintenant. Il y a des gardes à vue. Il y a des gens qui sont dont on défonce la porte, on les emmène au commissariat pendant 72 heures parce que ces gens-là ont tweeté des choses positives sur la Russie. C'est en train de se passer en France maintenant. Il n'y a même pas la guerre, on est déjà en train de préparer ça.
Voilà, on est en train de préparer ça. Donc, c'est un peu l'inquiétude principe majeure que nous avons aujourd'hui par rapport à cette situation. Dernier mot peut-être, c'est une sorte de petite revue de presse que nous faisons ainsi au niveau européen et français ensemble avec Laurent Michelon, l'invité de ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Comprendre la relation Chine-Occident, c'est l'ouvrage, c'est le livre. Quelle est la maison, rappelez-nous la maison d'édition?
C'est en auto-édition.
D'accord. Voilà. Donc on peut l'avoir sur Amazon?
Alors il est sur Amazon.fr, donc d'accord. Il faut bien mettre une adresse de livraison en France parce que sinon il n'apparaît pas dans les résultats de recherche. Donc Amazon.fr avec une livraison en France, il est sur Rakuten, et puis il est dans toutes les bonnes librairies, et puis il est sur thebookedition.com qui est la société qui l'imprime et l'envoie en fait aux gens. Et là il y a un deuxième ouvrage en préparation.
Ah.
Voilà,
qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus?
Bon, le sujet en fait c'est un ouvrage sur en fait la gouvernance chinoise. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance chinoise? Parce qu'il y a une grande incompréhension en Occident, qui est normal, étant donné le battage médiatique sinophobe sur la Chine. Il est normal que les gens n'y comprennent rien. Et donc, en fait, j'explique que la Chine n'est pas... Parce que en Europe et aux États-Unis, quand on entend Chine, on se dit qu'il y a un parti communiste. Donc, finalement, c'est comme Staline, c'est comme Pol Pot, c'est des gens qui ne respectent pas la vie humaine. Bon, donc, en fait, on dit, oui, bon, bah, de toute façon, c'est des communistes, donc ce sont des fous sanguinaires. Ça, c'est évidemment le récit qui nous est proposé aussi bien par les médias que par malheureusement, les membres de les émissions. Professeurs d'université, la plupart en France sont des sinophobes rabiques qui relaient absolument toutes les histoires sur l'histoire des médias américains sur la Chine. Et donc en fait il s'agit d'expliquer que la Chine en fait c'est une simplification qui induit en erreur de dire la Chine est un pays communiste, et c'est aussi une simplification qui induit en erreur que d'entendre des gens qui se rendent en Chine, qui voient les gratte-ciel, les trains à grande vitesse, les choses comme ça, et qui disent ah mais en fait ici c'est super capitaliste, en fait la Chine n'a rien de communiste, c'est un pays capitaliste. En fait c'est ni l'un ni l'autre, la Chine n'est pas capitaliste, hein, c'est un pays mercantiliste, mais c'est une et la Chine se définit elle-même, et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on prenne l'habitude de faire en Europe, et j'espère moi à mon niveau que je puisse convaincre les gens en France de faire, c'est regarder comment la Chine s'auto-définit. Il faut arrêter de passer systématiquement par la médiation des médias de masse. La Chine se définit comme une économie socialiste de marché à spécificité chinoise.
D'accord.
Donc, c'est trois concepts en un. C'est nous sommes un pays socialiste. Xi Jinping a récemment rappelé l'attachement de la Chine au marxisme, mais il a dit le marxisme on l'a adapté à la tradition chinoise, de façon à ce qu'il ne soit pas une importation étrangère. Le marxisme, c'est une idéologie interne, pas chinois. Hein. Voilà, et donc c'est une importation. Il a pas voulu. Enfin, la Chine ne veut pas que ce concept étranger soit imposé sur la Chine. Il a fallu qu'il soit adapté. Et on voit en fait chaque président chinois a eu sa propre interprétation, sa propre
donc
évolution.
Donc il n'y a pas de révolution internationale communiste avec la Chine qui
rien
serait
à voir avec
un cœur battant de cette révolution mondiale.
La Chine ne parle que d'elle-même. Elle n'a pas l'intention d'être un modèle pour le reste de l'humanité. Son modèle dont j'ai parlé, l'économie socialiste de marché à spécificité chinoise, c'est quelque chose qui marche pour la Chine, qui a été inventé pour la Chine, qui n'est pas proposé comme modèle de développement, même pour le Sud global. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que les gens comprennent en fait quelle est en fait cette gouvernance, comment ça marche, le rapport à la démocratie. Hein, toujours de dire il n'y a pas de démocratie en Chine, c'est faux.
Ah bah, disons que le réflexe, c'est tout de suite de dire mais le Xi Jinping, leur responsable principal, est quelqu'un qui n'est pas élu au suffrage universel direct.
Il est élu. Il a été élu par 100 millions de personnes.
Direct, suffrage universel direct.
Il a été élu au suffrage universel.
Pas un suffrage universel
non.
Indirect
Ben voilà, parce qu'en fait, il a été élu par le Parti communiste. C'est 100 millions de personnes. Alors, voilà ce qui est.
Et qui eux-mêmes ne sont pas élus.
Non, ils ne sont pas élus, effectivement. C'est un peu comme les grands électeurs, en fait,
oui.
Le Parti communiste. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Chine, il y a deux types de scrutin. Au niveau local, municipal, les gens votent pour les questions qui concernent la vie quotidienne dans la cité, donc la voirie, l'école, l'éducation des enfants, la santé, les choses comme ça.
Et là, ça n'a pas de rapport avec le Parti communiste ?
Rien à voir.
D'accord.
C'est vraiment des élections de village, de petites
villes. N'importe qui peut se présenter, vous n'êtes pas obligé d'être membre du Parti communiste.
Alors, c'est pas forcément pour élire des représentants, mais ça va être pour voter sur des lois qui sont proposées par le gouvernement. Et donc, en fait, ce qu'il y a, ce qui se passe, c'est qu'il y a un aller-retour.
C'est une sorte de démocratie directe, là, pour le coup.
Voilà, il y a des allers-retours. Il y a des allers-retours. Donc, la loi qui va être proposée au niveau central, ça va descendre au niveau provincial, au niveau municipal. On va voir s'il y a des biais auxquels on n'aurait pas pensé, des effets pervers, des choses comme ça. Et ensuite, on vote au niveau local, on prend ou on ne prend pas. Des fois, ça remonte, c'est changé, ça peut être abandonné. Et voilà. Donc ça, c'est au niveau local. Et ensuite, il y a 100 millions de membres du Parti communiste, et eux, ils votent pour toutes les questions, mais pour l'échelon supérieur. C'est-à-dire que Xi Jinping a été élu par 7 personnes, les 7 membres du bureau politique. Voilà. Ces gens-là ont été élus par 125 personnes, qui ont été élus par les 700 en dessous. Enfin, voilà. Et donc c'est vraiment une pyramide de décision. Mais il faut bien voir que donc c'est le résultat des élections, et donc de consensus. Parce que quand les 7 votent pour Xi Jinping, c'est qu'ils sont ces différentes factions, différents courants de pensée et de vision de développement de la Chine qui se mettent d'accord sur une personne en particulier. Voilà. Donc bon, voilà, c'est pas la démocratie libérale comme nous, c'est certes, mais Xi Jinping d'ailleurs l'a répété lui-même dans ses ouvrages, dans beaucoup de discours, il dit on n'a pas accepté la démocratie libérale qu'essaie de nous imposer l'Occident, parce que ça ne convient pas à la Chine, mais vous n'avez pas le monopole de la démocratie. Nous, on a ce qu'on appelle en Chine la démocratie constante, en fait. Il disait, vous avez un processus électoral sur lequel vous vous focussez, tous les 4-5 ans, on fait une grande fête, la campagne présidentielle, on réveille les gens de leur torpeur jusqu'à ce qu'ils mettent leur bulletin dans l'urne. Et une fois que le dirigeant est élu, il est inamovible pour le temps de son mandat, qu'il soit corrompu, qu'il soit incapable, qu'il soit... il est inamovible. Il faut
et
toujours
puis, frapper
de cette phrase.
Il est non seulement inamovible, et puis il fait ce qu'il veut.
C'est ça. Mais voilà, ce qu'il veut.
Il n'y a pas dans ces pseudo-démocraties libérales occidentales cet échange permanent entre la société civile et le pouvoir central.
Exact.
Alors qu'il semblerait que dans un pays comme la Chine, même si en effet la démocratie de type suffrage universel direct n'existe pas en tant que telle, par contre, il y a un échange permanent entre la société et le pouvoir central, qui n'est pas qu'une boîte noire, comme on prétend nous le...
Exactement. Et donc ce modèle, il permet quelque chose qui est impossible en Occident, et ça, c'est quelque chose, une phrase dont il faut vraiment se rappeler, c'est en Chine, on ne peut pas changer le parti, le dirigeant, mais on peut changer les politiques. En Occident, on peut changer le dirigeant ou le...
Mais on ne change jamais les politiques.
Et on le voit dans toutes les politiques, que ce soit en termes de la doxa sur l'environnement, sur la loi sur l'immigration, ça ne change pas, quelle que soit l'étiquette politique du président. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que la démocratie ? Est-ce que c'est penser qu'on choisit son dirigeant, mais en fait, notre vie quotidienne ne change pas ? Et il y a une feuille de route que tout président va devoir suivre de toute façon, et c'est pour ça qu'on dit c'est pas le président qui décide. C'est qui est forcément, s'il y a une feuille de route qui ne change pas, c'est qu'il y a des gens derrière le président qui eux sont inamovibles. Et ça, on appelle ça une administration permanente, on appelle ça un état profond, on l'appelle comme on veut, mais on voit très bien qu'en Occident il y a un niveau de pouvoir qui n'est pas visible aux yeux du peuple. Voilà.
Et c'est même dans un pays comme la France la totalité du pouvoir, des pouvoirs qui est entre les mains d'un seul homme. Là, on a pu le constater avec un chef de l'État qui n'a même pas de majorité à l'Assemblée nationale et qui pourtant dirige le pays comme il le souhaite.
Exact.
Là, la loi sur la fin de vie, la loi sur l'euthanasie, c'était encore Macron qui était à la baguette, hein. Il ne faut pas se leurrer.
Hein. Bien sûr.
Lui qui a voulu accélérer le débat parlementaire, il l'a fait.
Hein. Oui, mais je dirais c'est l'exécutant. Je pense que
ces mandants, qui eux sont derrière la scène.
C'est sa feuille de route. Tu vas devoir faire passer telle loi. Et il le fait. On a vu la loi sur le travail. On a vu la loi sur la fin de vie. On voit le dépeçage de l'économie française. On vend les bonnes pépites quasiment systématiquement aux États-Unis. C'est une feuille de route. C'est pas quelque chose que Emmanuel Macron décide tout seul. Et le fait qu'il puisse justement le faire en dépit de toutes les pouvoirs, les pouvoirs de contrebalance qui devraient pouvoir stopper ça, il ne le stoppe pas. Ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un qui dit à ses pouvoirs judiciaires, à ses pouvoirs, dit ne bougez pas, laissez faire Macron.
C'est là qu'on voit le degré de trahison des élites européennes.
Bien sûr.
Élite européenne, Europe, qui, le moins qu'on puisse dire, ne s'entend pas particulièrement avec la Chine. Il y a, de la part de l'Union européenne, mais parce que, et là, on se dit que vraiment, l'Europe, en fait, est un instrument avec l'OTAN au service de la politique américaine, de l'État profond américain. On voit parfaitement que l'Europe, en fait, tient un discours et en même temps établit des relations avec la Chine qui sont un calque de la politique américaine. Alors, il y a le côté grandiloquent, délirant même parfois de Trump dans les relations internationales. Mais au-delà de ça, finalement, l'Union européenne, von der Leyen, les quelques dirigeants importants européens ont une politique qui est hostile à la Chine et calquée sur l'hostilité américaine. Ça, comme ça que c'est interprété en Chine.
Oui, absolument. Et c'est déploré en Chine parce que la plupart des gens en Chine, et je dirais même au plus haut échelon du gouvernement, il y a cette impression que l'Union européenne est un projet européen. Donc,
c'est pas le cas.
C'est pas du tout le cas, mais ils ne le savent pas. Et quand on leur dit, ils disent oui, mais il manque un petit peu de preuves pour pouvoir convaincre nos dirigeants que effectivement c'est un projet américain c'est un gouvernement d'occupation en fait sur les pays européens. Ils ont l'impression que l'Union européenne se tire dans le pied en permanence. Alors. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les dirigeants de l'Union européenne, mais on ne peut pas dire que ce sont des gens stupides. Les décisions qu'ils prennent, qui sont, contre les intérêts des pays européens, c'est pas de la maladresse, c'est pas de la stupidité, c'est un projet. Et ça, c'est difficilement compris en Chine parce qu'ils ont l'impression que l'Union européenne, c'est l'aboutissement d'une volonté de tous les pays européens de donner finalement leur souveraineté à une entité bruxelloise, alors que c'est pas du tout le cas.
Il y a un fantasme, entre autres en France, voilà. Une partie de l'élite française, bourgeoise,
ouais.
Une espèce d'auto-nécrose narcissique à vouloir se mourir pour l'Union européenne. Ça existe, mais c'est spécifiquement français. C'est comme quand on parle du couple franco-allemand. C'est en France qu'on parle de ça, les Allemands.
Il n'y a même pas de mots en allemand pour ça.
Il n'y a pas de couple franco-allemand vu d'Allemagne. Mais il y a en effet une espèce de délire suicidaire sur une partie de l'élite bourgeoise française, mais c'est tout. Sinon, bien sûr, c'est un projet, et un projet en plus dont les inspirateurs sont de l'autre côté de l'Atlantique.
Exactement. Et donc on voit bien que l'Union européenne, comme vous disiez, suit la directive américaine. Mais le problème, c'est qu'on le fait de façon très maladroite et on va dire avec beaucoup trop de zèle, parce qu'on voit que les États-Unis sont capables de finalement changer de fusil d'épaule. Par exemple, on voit que Donald Trump a changé son fusil d'épaule suite à la récente guerre commerciale avec la Chine sur la guerre sur les droits de douane, où la Chine a dit non. Elle dit, nous aussi, on peut augmenter les droits de douane et finalement complètement couper le commerce avec les États-Unis. Et finalement, on voit que Donald Trump se rend aux États-Unis avec une délégation des 20 plus grands patrons d'entreprises américains. Et quand on parle de découplage entre les États-Unis et la Chine depuis 2018, et que finalement on emmène la plus grosse délégation de l'histoire des relations bilatérales américaines et chinoises, c'est pas pour découpler. C'est pour signer des contrats, c'est pour renforcer la relation économique. Mais nous, en Europe, où on a fait du suivisme par rapport aux États-Unis, on reste, bloqué sur notre position de dérisquage. On a inventé un mot différent, qui est découplage, dérisquage, en disant mais c'est plus soft que le découplage. Sauf que nous, on y va vraiment, on va vraiment au clash. On voit la loi sur les accélérateurs industriels de Monsieur Séjourné.
Alors parlez-nous un peu de cette loi, justement, sur les accélérateurs industriels de l'Union européenne.
C'est une loi qui a été...
dont vous dites elle est contre la Chine.
Ah oui, mais c'est assumé en plus, hein. c'est quelque chose qui est... Parce que de toute façon, quel est le plus gros partenaire économique de l'Union européenne? C'est la Chine, donc oui. Voilà. Et il s'agit en fait pour... Alors ça a commencé en fait avec M. Séjourné, qui est notre ancien ministre des Affaires étrangères, qui est resté 9 mois en poste, parce que... comme il n'a pas donné satisfaction, eh bien il a été promu à l'Union européenne dans une position de vice-ministre sur les questions industrielles. Et il a rédigé une loi. Alors là aussi, comme je dis, c'est pas de son propre chef.
Sûrement
pas. Voilà, quand on connaît
c'est
le personnage.
Lui, c'est un imbécile.
Voilà, on connaît le personnage, il n'a pas, les épaules, ni. voilà, pour venir, enfin, pour avoir une idée comme ça, et puis ensuite la mettre en pratique. Toujours est-il que c'est à lui qu'on fait porter le chapeau. Et donc, il a proposé une loi qui s'appelle la loi sur les accélérateurs industriels, qui a été acceptée par la Commission européenne il y a 2 mois, et qui devrait être votée en décembre au Parlement européen. C'est une loi qui, en fait, est un catalogue de mesures de mesures protectionnistes contre la Chine. On impose à la Chine, si elle veut, voilà, ça part du prédicat, en fait, que la Chine a plus besoin du marché européen que l'Europe a besoin de la Chine. Ce qui est déjà une énorme erreur d'appréciation.
Ça, c'est l'erreur qu'ils font tous.
Voilà. Et en plus, ils le répètent sur les plateaux de télé jusqu'à maintenant. C'est on va aller au clash avec la Chine parce qu'ils ont plus besoin de nous que nous deux.
Je crois qu'ils ont au moins 30 ans de retard. Hein.
Exactement. Et donc, cette loi, en fait, établit une liste de conditions pour donner un accès au marché européen à la Chine. Et c'est donc un produit, par exemple un véhicule électrique qui va être vendu en Europe, eh bien il doit être assemblé à 70% sur le territoire européen. Il doit y avoir des dépenses de recherche et développement qui doivent être faites sur le territoire européen. Il doit y avoir des transferts de technologie à un certain niveau. Il doit y avoir tout un tas de conditions qui, dans l'état actuel des choses, seront quasiment sûrement refusées par la Chine parce qu'elles sont excessives. Mais je pense que cette loi est faite pour cela, pour en fait vraiment arriver à un clash avec la Chine. Parce qu'ils savent que
cette loi ne s'applique pas pour les États-Unis ?
Non, c'est ça. Et donc, alors si, dans les faits, elle s'appliquerait aux États-Unis, mais il y a toujours le fait de la loi et puis de son application. Et elle a été faite, elle a été designée
par rapport
à la Chine. On a vu que les grands patrons européens, pas juste français, mais allemands, espagnols, se sont tous levés contre en disant, ils appellent ça un monstre bureaucratique et un poison. C'est les mots qui ont été employés. Et ils ont même changé le nom de la loi. Ils ont dit la loi de désaccélération industrielle, parce que ce sera le résultat si c'est appliqué.
Voilà. Désindustrialisation.
Exactement. Donc, cette loi devrait être votée au Parlement en décembre. Les négociations pré-vote, parce que évidemment les Chinois sont à Bruxelles, il y a une chambre de commerce chinoise à Bruxelles, enfin, en Union européenne, et donc évidemment ils veulent pas que cette loi passe, et il y a donc des discussions en ce moment qui ont lieu, et il y a récemment un député allemand qui disait dans un média allemand mais on est en train de rentrer en clash avec la Chine, mais on sait que dans 3 mois on va capituler parce qu'on n'a pas les cartes en main. Et c'est exactement ça, c'est du bluff, parce que si c'est appliqué, c'est suicidaire.
Pourquoi ?
Ben parce que les Chinois vont arrêter d'investir en Europe. Or, on le voit peut-être pas au quotidien dans la rue.
Or, ils peuvent se permettre de ne plus investir en Europe.
Ils ont fait ce pari en 2018 quand ils ont commencé leur première guerre commerciale avec la Chine, en disant on va mettre des sanctions, des barrières douanières, tout ça.
Même raisonnement, les Américains, les Chinois ont plus besoin de nous que nous avons besoin
d'eux. Et puis après, il y a eu Biden au milieu, ça a vivoté pendant quelques années. Et puis Trump revient en 2025 en disant 145-250% de droits de douane et tout ça. Et les Chinois ont dit non, on peut tout arrêter du jour au lendemain. Mais parce que dans ces 8 ans qui se sont passés entre la première menace et la deuxième, les Chinois ne sont pas restés assis sur leurs mains. Ils ont changé tout leur commerce international vers l'Asie du Sud-Est, vers le Moyen-Orient, vers la Russie, vers l'Europe également. Et donc les États-Unis sont tombés à peu près 2% du PIB. Le commerce avec les États-Unis, c'est 2% du PIB chinois. Donc ils ont dit, c'est évidemment, on veut pas le balancer par la fenêtre, mais enfin, on peut aussi vivre sans. Et donc, en fait, on regarde, les États-Unis menacent en permanence, mais le commerce bilatéral a certes baissé, mais il a toujours lieu. Les États-Unis, comme l'Europe, ont une addiction aux produits made in China.
Ah bah oui.
Pour des questions de désindustrialisation des 40 dernières années.
Pouvoir d'achat,
du prix de l'énergie.
Si on achète chinois aujourd'hui, c'est d'abord parce que les populations ont des pouvoirs d'achat qui ont fortement baissé.
Exactement.
Et qu'il faut le made in China.
Exactement.
Et qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Hein.
Voilà, exactement. Mais c'est ce que disent un peu les autorités chinoises en disant mais les problèmes de l'Union européenne n'ont pas leur source en Chine. Voilà, nous on vous vend ce que vous achetez. Donc c'est cette loi, je pense, c'est un bluff de l'Union européenne. Ça a été apparemment confirmé en voix off par ce député allemand qui disait on sait très bien qu'on va capituler. Et puis c'est très bien parce que c'est, si jamais ça passe, eh bien c'est suicidaire pour l'Union européenne. Et,
bah on n'en est pas un suicide près, hein, attention.
Non,
hein.
Exactement. Mais le problème de cette loi, c'est qu'elle est, elle est, elle est stupide parce qu'elle est, elle établit une barrière autour de l'Europe infranchissable pour la Chine. Mais on peut dire non aux produits chinois, mais c'est quoi la contrepartie? C'est comme on dit non à l'énergie russe. Mais c'est quoi la contrepartie? C'est de l'acheter plus cher aux États-Unis.
Ouais.
Et donc là, on va l'acheter où? Parce qu'on n'a pas les usines. On n'est pas arrivé au stade où on peut dire, bah, en fait, on peut marcher sur nos deux jambes maintenant. On a réindustrialisé. Et en fait, ils le savent très bien parce qu'en fait, dans la loi
sur les accélérateurs... Rien que l'automobile, si on veut vraiment tout mettre en électrique, comment on va faire? Quand on voit que Volkswagen a encore débauché des milliers ou dizaines de milliers de salariés.
Et là, ce qu'il faut voir, c'est la dichotomie en fait, entre la parole des responsables politiques et l'opinion des grands capitaines d'entreprise qui, eux, sont tous contre ces lois européennes. Même... des lois qui sont censées les protéger.
Ah, ils sont censés, oui, permettre d'assurer le marché européen.
Ils disent, on ne veut pas être protégé comme ça. Mettez-nous moins de taxes ici, mais n'empêchez pas la compétition avec la Chine, parce qu'on a besoin de cette compétition, et on ne peut pas se fermer de notre partenaire chinois, parce qu'on a tous des partenariats et des centres de recherche et développement en Chine, avec nos partenaires chinois. Si on commence à leur bloquer l'accès à notre marché, nous, on n'a plus accès à ça. Donc finalement, ça va être... très néfaste pour l'industrie automobile. C'est vraiment la différence, je dirais, entre la Chine et l'Union européenne et l'Occident en général, c'est que les Chinois n'ont pas peur de la compétition. Nous, on est terrorisés par ça. Les Chinois ont laissé rentrer Tesla sur leur marché. Tesla a pris 40% de part de marché en deux semaines, quand ils sont rentrés sur le marché chinois. Ça a fait partir en faillite tout un tas de marques chinoises de véhicules électriques qui n'étaient pas au niveau. Mais tous les autres qui ont survécu, eux, ils se sont mis en ordre de bataille. Et ils sont montés en gamme, et on l'a vu, hein, pré-Covid et après-Covid, les voitures électriques chinoises, c'était un autre monde. Moi, je disais toujours, avant le Covid, vous me donniez une voiture électrique chinoise, j'en voulais pas. Maintenant, c'est un très beau véhicule, très avancé technologiquement, et ça a été fait en laissant rentrer la compétition sur le marché chinois. Et maintenant, bah, la part de marché de Tesla, c'est plus 40% en Chine, c'est 6 ou 7%, parce que Les compétiteurs chinois sont montés en gamme et maintenant ils sont capables de rentrer en compétition. Et c'est ce que veulent faire les grandes marques européennes. Ils disent, mais laissez rentrer les Chinois. De toute façon, là on dit déferlement de l'automobile chinoise, ils nous envahissent en Europe. Ils sont maximum, les chiffres sont différents dans chaque pays, mais en France je crois que c'est un des plus hauts, c'est 6%. 6% de part de marché. On est loin d'une vague de déferlante, alors que nous, les véhicules occidentaux en Chine, pendant trois décennies, c'était 80% de la part de marché. Les Chinois n'ont jamais parlé de déferlante. Hein. Donc voilà, il faut regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut réindustrialiser l'Europe avec les Chinois. Ça ne se fera pas contre les Chinois. La réindustrialisation de l'Europe, c'est nécessaire, hein, je suis le premier à le dire, mais ça ne se fera pas contre les Chinois.
Je suis pas sûr, moi, qu'il y aura une réindustrialisation de l'Europe. Hein. On est mal parti pour ça, mais bon.
Dans le domaine de l'armement, en tout cas, c'est en route. Mais les autres domaines, on ne sait pas.
Oui, mais voilà, mais elle est. Ça ruisselle peu, hein, l'armement, on s'est rendu compte
oui.
dans les études économiques. Alors, je propose, parce que oui, on est pratiquement arrivé à la moitié de cette émission, nous allons passer, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans le livre journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie, et nous allons passer un très court Bobineau et revenir juste après notre invité Laurent Michelon.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois, 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Vous êtes dans le livre journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie. Notre invité Laurent Michelon. Laurent Michelon et son livre comprend la relation Chine-Occident. En auto-édition, vous pouvez le retrouver sur Amazon, sur Book Edition. Vous procurez ce livre parce qu'il est important. En plus, il a été actualisé par une nouvelle édition. Et donc, vous y avez tous les éléments. Et bientôt, on espère... Le nouvel ouvrage de Laurent Michelon à venir. Donc nous étions sur ces accélérateurs qui décélèrent l'industrie européenne, hein, pour une Europe pastorale. Moi, je crois que c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Hein. Voilà, en Arcadie, peut-être. Nous aurons une Europe arcadienne. Donc, voilà le problème, déjà, d'une Europe qui est aux ordres du maître américain dans ses relations commerciales. On a parlé tout à l'heure un petit peu de l'Ukraine, de l'Est de l'Europe. Comment la Chine voit les relations, la guerre avec l'Ukraine, sachant qu'ils ont une alliance claire avec la Russie. Le rapport des Européens, on en parlait avec contre la Russie, leur implication dans la guerre en Ukraine. Comment c'est perçu tout ça en Chine ?
Alors, déjà, juste un petit point. Parallèle, la Chine n'a pas d'alliance avec la Russie et c'est un partenariat. Mais le mot est important, je pinaille un peu, mais parce que c'est vraiment, ça touche au concept de la souveraineté. Et aussi bien la Russie que la Chine ne veulent pas avoir une alliance, en fait, parce qu'une alliance, c'est contraignant sur le domaine de la souveraineté. C'est-à-dire que quand il y a une alliance, eh bien, ça impliquerait que la Chine devrait être aux côtés de la Russie. Dans une guerre. Or, la Chine, aussi bien en Ukraine qu'en Iran, ne veut pas être, on va dire, empêtrée dans une relation qui est forcément...
Encore une fois, on est à l'opposé là, de l'Europe et son réseau d'alliances.
Complètement.
Mais dont on sait qu'elle a quand même été à l'origine de deux guerres mondiales.
Hein. Exactement. Mais qui repose justement sur l'article 5 qui fait qu'on perd la souveraineté de décider avec qui on va rentrer en conflit. Parce que la Chine, si elle avait une alliance avec la Russie, eh bien, elle devrait participer à l'effort de guerre contre l'Ukraine. Or, elle a une très bonne relation avec. Enfin, elle avait une
Est-ce
très bonne relation avec l'Ukraine.
Ça semble exister aujourd'hui entre la Corée du Nord et la Russie.
Voilà, c'est très différent. Alors, la Corée du Nord, effectivement, il y a eu un accord entre la Russie et la Corée du Nord, un accord d'assistance mutuelle sur des questions militaires. Donc, la Corée du Nord fournit des obus à la Russie. On a vu qu'ils ont envoyé des troupes en Russie, hein, pas en Ukraine, mais ils ont envoyé des troupes pour soutenir en fait l'effort de guerre russe dans le Donbass. Voilà, ça c'est la Corée du Nord et la Russie. La Chine ne veut pas de cette relation ni avec la Corée du Nord, ni avec la Russie, ni avec l'Iran. Il n'y a pas question de signer une alliance non plus avec l'Iran.
Ni avec personne.
Ni avec personne, parce que...
Ben ça c'est sa façon de voir les relations internationales.
Mais ça permet de rester à équidistance en fait des belligérants en fait. On peut la Chine par exemple, un exemple concret, la Chine fournit des pièces détachées de drones, mais aussi bien à l'Ukraine qu'à la Russie. L'Ukraine, c'était 87% jusqu'à récemment des pièces détachées de drones étaient des pièces chinoises. Voilà. La Russie le sait, mais la Chine fournit aussi la Russie. Et quand les États-Unis ont fait pression sur la Chine en disant arrêtez de vendre autant de matériel pour drones à la Russie, ils ont dit bah oui, mais à ce moment-là, on va réduire aussi pour l'Ukraine. Ce qui est très bien, on envoie moins d'armes sur le champ de bataille et puis ça sauvera des vies. Bon. Mais ça, c'est évidemment pas l'objectif qui était recherché par les États-Unis. Ils voulaient que la Chine prenne position, cesse d'approvisionner la Russie, mais continue d'approvisionner l'Ukraine.
Ça, il n'en est pas question.
Il n'en est pas question parce que la Chine tient à sa position de neutralité, qui n'est pas juste déclarative.
Qui est leur droit, en tous les cas. Ça nous agace profondément. Parce qu'on est, en effet, les Européens, dans une logique où il faut nécessairement être pour ou contre allié ou ennemi.
Exactement.
Et les Chinois ne sont pas comme ça.
Exactement.
Et puis, c'est comme ça.
Et puis c'est comme ça.
Et puis c'est leur droit le plus souverain.
Et puis ça fait que ben eux, depuis la fin de leur guerre civile, ils sont jamais rentrés en guerre avec qui que ce soit.
Exactement.
Donc voilà, c'est la grande différence. Et donc cette position de neutralité que j'explique dans mon ouvrage comme étant le résultat en fait de la philosophie politique chinoise sur ce concept de la voie médiane, hein, donc toujours rester à équidistance des extrêmes, eh bien ça permet à la Chine d'aider à négocier un accord de paix. Donc on a vu qu'elle a proposé des plans de paix en Ukraine à deux reprises, une fois toute seule, une fois avec le Brésil. Ça a été rejeté, c'est pas de son fait, c'est l'Occident et l'Ukraine qui ont refusé ce plan de paix parce qu'ils ne veulent pas la paix, on le sait très bien. Et ça, il faut voir que la Chine, il faut comprendre que la Chine a besoin de la paix dans le monde parce que c'est la plus grande nation commerçante au monde. Le commerce... La guerre, c'est pas bon pour le business, tout le monde le sait. Par contre, l'hégémon anglo-américain, lui, a besoin du chaos pour garder sa primauté. Donc on a vraiment deux superpuissances qui ont un objectif complètement différent. Il y en a un qui veut rester premier et qui donc a besoin du chaos, l'autre qui n'a pas d'aspiration à devenir premier mais qui effectivement est en phase d'ascendance et qui a besoin de la paix. Et donc, il y en a un qui se dit, si je perturbe les goulets d'étranglement comme le canal de Panama, le détroit d'Ormuz, le canal de Suez, tout ça, ou le canal de le détroit de Malacca, eh bien, ça va empêcher le développement de la Chine. Voilà. C'est donc bloquer les nouvelles routes de la soie chinoise et tout ça. Donc, la Chine, elle est dans une position où elle essaie toujours
sauf
de ramener...
On se tire une balle dans le pied, parce qu'en général, c'est nous aussi
ça qui sommes toujours très
les
mal
premières
pour nous
victimes
à la
fin. De ce genre.
Nous,
de...
ou alors, les, enfin, voilà, c'est-à-dire les alliés, entre guillemets,
parce
les États-Unis.
Parce que nous sommes aussi des puissances commerciales.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais on voit, par exemple, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Donc, c'est une agression israélo-américaine sur l'Iran. Le premier résultat, alors tout le monde, on va dire les gens qui sont, on va dire, anti-chinois, disaient c'est très bien parce que c'est en fait ça, c'est un gros problème pour la Chine parce qu'il y a 14% de son pétrole qui vient, 14% du pétrole maritime qui vient d'Iran. Bon, d'abord, les bateaux chinois n'ont pas été bloqués par les Iraniens, c'est une première chose. Et deuxièmement, ceux qui ont eu à pâtir du blocage du détroit d'Ormuz, ce sont les alliés des Américains dans la région, c'est-à-dire Taïwan, les Philippines, le Japon, la Corée du Sud, tous ces pays-là qui sont des très très forts importateurs d'hydrocarbures et de fertiliseurs du Moyen-Orient, c'est les premiers qui ont été touchés, mais à des niveaux de pénurie très graves, où ils ont dû taper dans leurs réserves. Voilà. Donc en fait, on se rend compte que être allié des États-Unis, c'est souvent être le mouton sacrificiel en fait. Et la Chine, elle finit toujours par retirer les marrons du feu. Et on voit justement beaucoup de mèmes sur Internet qui disent la Chine gagne sans jamais rien faire en fait. Et effectivement, mais parce que la stratégie hégémonique américaine est très mal pensée. Elle repose sur des idées qui datent de la guerre froide, sur des idées sur la Chine où en fait ils ont eu un très mauvais regard sur la Chine. On a vu Donald Trump récemment qui finissait heureusement par se moquer d'un des grands conseillers de la Maison Blanche et d'autres qui travaillent dans des think tanks américains, un monsieur qui s'appelle Gordon Chang, un sino-américain qui depuis 30 ans, il a écrit il y a 30 ans un bouquin qui s'appelle l'effondrement imminent de la Chine. Le bouquin a été écrit il y a 30 ans et puis il le réactualise tous les 5 ans. Il fait juste changer la date en fait, en espérant que ça arrive un jour. Et ce monsieur a été moqué par Donald Trump qui a dit mais ce gars-là en fait il nous envoie dans le mur. Ça se demandait si c'est pas un agent chinois en fait pour nous induire en erreur. Voilà. Donc c'est la Chine, pour revenir à la question géopolitique, elle a vraiment un rôle de médiateur parce qu'elle a besoin de la paix dans le monde. Et ça, on l'a vu en Ukraine. Alors on se dit, oui, vendre des pièces détachées de drones, c'est pas vraiment un rôle de médiateur. Mais en fait, c'est parce que la Chine ne peut pas se permettre que la Russie perde. Et ça, c'est quelque chose qui est l'héritage en fait d'une trentaine, quarantaine d'années de harcèlement de l'hégémon anglo-américain, tantôt sur la Russie, tantôt sur la Chine. Et ça fait que ces deux grands états-civilisations ont fini par se rendre compte qu'ils étaient dans le même bateau. Ils étaient dans le même viseur, en fait, dans le viseur de l'hégémon anglo-américain, alors qu'en fait, c'est deux pays qui ne s'entendaient pas du tout, en fait, depuis la séparation entre Mao et Khrouchtchev, la séparation idéologique, eh bien, les deux pays se sont fait la guerre, il y a eu des escarmouches militaires entre les deux, c'est des pays qui se sont regardés en chien de faïence jusque dans les années 2000, jusqu'à ce que Poutine arrive,
oui,
ça se passait pas très bien.
Il est initié à la fin des années 90.
C'est ça, exactement. Exactement.
Le forum de Shanghai, ce genre
exact,
de choses.
Exact, les premières manœuvres conjointes militaires, 1996, le traité d'amitié éternelle sino-russe, mais c'est 96, c'est très tardif en fait. Et en fait, voilà, donc ces deux états-civilisations sont rendu compte qu'ils étaient dans le même bateau et donc ils finissent par se rapprocher. Et Donald Trump, qu'on peut critiquer sur beaucoup de points, avait eu il a été assez visionnaire en disant à la veille de sa réélection, il a dit moi ma première tâche quand je vais arriver au pouvoir c'est de séparer la Chine de la Russie que Biden a mis dans le même lit. Voilà. Alors il n'y arrivera pas. Mais effectivement, c'était un bon diagnostic parce qu'ils ont solidifié en fait cette masse eurasiatique. Et maintenant, l'Iran, suite
Alors, pas suite à la guerre de 12 jours. Après la guerre de 12 jours, l'Iran a pensé encore qu'il pouvait jouer sur les deux. Ils espéraient un rapprochement ou une accalmie avec les États-Unis, tout en disant « mais sinon je vais me rapprocher de la Chine ». C'est un peu comme la Turquie, l'Iran, ils ont toujours joué un peu sur les deux. Là, après l'agression israélo-américaine, je pense, et il y a beaucoup de signes, qu'ils ont compris que leur destin c'est en Eurasie et que donc il fallait se rapprocher de la Chine, il fallait se rapprocher de la Russie et puis rester fidèle. Pas à la première occasion essayer de se rapprocher des États-Unis s'ils nous disent qu'on peut faire la paix.
Ce qui veut dire être définitivement dans le collimateur justement des Israélo-Américains.
Ah oui, mais
L'a été Assad, Bachar el-Assad. En Syrie.
Exact. Mais là, ils peuvent compter du coup sur une assistance chinoise qui a déjà été effective. Hein. Les Chinois auraient mis à disposition leur constellation de satellites Beidou, qui est en fait l'équivalent de GPS. Du GPS, mais avec une résolution bien supérieure, donc c'est un produit technologiquement supérieur, et ça a expliqué la différence de précision des missiles russes, des missiles iraniens entre la guerre des 12 jours et puis un an plus tard, les missiles.
Ils ont été beaucoup plus précis.
Beaucoup plus précis parce qu'ils utiliseraient le système chinois de navigation.
Et là, il semblerait que les dernières frappes ont frappé durement les Américains, ce qui explique l'hystérie, la folle hystérie de Donald Trump depuis 2-3 jours par rapport à l'Iran.
Oui, tout à fait. Et les Chinois mettent aussi à disposition l'imagerie satellite. Il y a une société chinoise privée qui s'appelle Mizar Vision et qui a mis sur les réseaux sociaux à disponibilité les cartes en très haute résolution de tout le Moyen-Orient, et on voit où sont positionnés les F-22 américains, les F-35 israéliens, les porte-avions qui se déplacent, tout est fourni en temps réel à l'Iran. Alors, il n'y a pas d'armes, mais c'est des moyens de se défendre. Au même moment, la Russie, elle, y a un pont aérien qui est institué avec l'Iran, et puis il y a du matériel, des batteries antimissiles, tout un tas de choses qui arrivent. Donc, on voit que pour l'Iran, c'est quand même bénéfique de prendre position, finalement, de se dire « mais mon destin est en Eurasie, de toute façon, on ne peut pas se défaire de sa géographie ». Et là, je pense qu'ils ont commencé à le comprendre. Et c'est grâce à la Chine qui enjoint les deux parties à revenir à la table des négociations. La Chine a dit ouvertement à l'Iran de ne pas se laisser aller à une escalade qui pousserait finalement Israël à se sentir dans une position de quasi-extinction et donc qui activerait une option nucléaire. La Chine a bien dit oui, répondez, vous avez le droit de répondre, vous êtes agressé, mais ne répondez pas de façon démesurée parce que ça pousserait à l'irréparable de l'autre côté. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même une...
Il y a cette crainte de la Chine du nucléaire, à la fois l'emploi du nucléaire à la fois au Moyen-Orient, mais aussi en Ukraine.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que l'option nucléaire, si elle est utilisée dans ces zones-là, elle peut être utilisée ailleurs. Ça veut dire que ça crée un précédent contemporain. Hein. On ne parle pas des deux de 1945.
Hiroshima et Nagasaki.
Voilà, et puis maintenant on parle beaucoup d'options nucléaires tactiques, donc ça fait moins peur, donc ça pourrait être utilisé en Asie aussi. Et donc ça, la Chine n'en veut pas. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le ministre des Affaires étrangères chinois a fait une visite préparatoire du président Xi Jinping, qui est allé en Corée du Nord récemment, parce que la Chine veut s'assurer que la Corée du Nord ne commettra pas l'irréparable, sachant que la Corée du Nord est constamment, on va dire, provoquée par les États-Unis, par ses proxys, Corée du Sud et Japon, à parler de la possibilité d'activer l'option nucléaire sur Hawaï, sur le Japon, des choses comme ça. Et la Chine ne veut surtout pas ça. Et c'est pour ça que quand on lit dans les médias occidentaux que finalement il y a une relation de partenaire junior-senior entre la Chine et la Corée du Nord, c'est faux. La Corée du Nord est un pays qui est encore plus souverain que la Chine, je dirais. Ils ont cette théorie politique qui s'appelle le Juche, qui est en fait la politique locale qui a été inventée par Kim Il-sung, mais qui fait que c'est quasiment un État autarcique et qui tient à sa souveraineté technologique et territoriale. Et la Chine ne contrôle absolument pas. C'est un peu, je vais employer un terme qui n'est pas très poli, mais c'est un peu le chien fou qu'on a peur qu'il aille mordre des passants. Quoi. Et donc,
Xi Jinping est allé. Il y a eu une visite là dernièrement.
Mais Xi Jinping s'est rendu justement pour s'assurer que la réponse nord-coréenne en cas d'agression, en cas de provocation américaine ou japonaise, resterait quand même dans un... ce serait en concertation avec la Russie et la Chine. Parce que s'il y a un problème, on imagine que ce serait des gros dégâts pour la Corée du Nord si elle rentrait en conflit avec le Sud ou le Japon, et bien là, ça fait une vague de réfugiés nord-coréens qui débarquent en Chine. Catastrophe humanitaire, catastrophe géopolitique. Donc la Chine veut s'assurer que la Corée du Nord... on va dire, se coordonner avec la Chine et la Russie. Ce qui n'est pas dit, hein, mais c'est l'espoir qui est de cette visite de Xi Jinping en Corée.
C'est vrai que cette option de nucléaire tactique se révèle de plus en plus une option sur la table, parce que je pense que c'est pareillement, il n'y aurait pas de... il n'y a pas de solution militaire s'il y avait demain un conflit entre les États-Unis et la Chine qui ne passerait pas par du nucléaire tactique, de part et d'autre d'ailleurs.
Et c'est à craindre, effectivement.
Et c'est vrai que si c'était testé en Ukraine, si il y avait un dérapage avec la Corée du Nord, finalement,
possible.
Ou même au Moyen-Orient, ça ouvrirait la boîte de Pandore. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
C'est évident. Parce qu'il y a vraiment cette impression que c'est même une ligne rouge qui a tracé à un moment donné la Chine dans ses relations avec la Russie. N'employez pas l'arme nucléaire, non ?
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que ça serait catastrophique pour l'ordre mondial. Parce qu'il faut bien voir que la Chine est un membre du Conseil de sécurité de l'ONU et dont qu'elle essaye de réformer. Et donc, elle est très, très attachée à la souveraineté des États. Elle a dénoncé, la Chine a dénoncé l'agression de la souveraineté ukrainienne par la Russie. Mais en disant, mais on connaît les raisons de cette agression. Donc, on choisit pas de camp. Mais effectivement, une utilisation nucléaire tactique sur l'Ukraine serait un acte irréparable, très, très difficile à défendre pour la Chine. Parce que la Chine se retrouvait dans le camp de... Alors, elle l'est déjà dans les médias, mais là, je pense que dans l'opinion publique mondiale, c'est effectivement... la Chine se retrouverait dans le camp du mal.
Voilà. Alors, on a de nombreuses questions. Peut-être, les 10 heures, c'est très bien pouvoir les développer. Avant de revenir peut-être sur le dernier thème que je souhaitais aborder, qui est aussi un thème interne à la Chine, et qui pourrait être très intéressant de constater, parce que je dirais que là, on a aussi un peu la vision de la Chine et la façon dont la Chine fonctionne dans ses affaires intérieures. C'est-à-dire, là, on finira sur la loi sur l'unité ethnique, qui est fortement dénoncée en Occident, dites-vous.
Oui.
Mais auparavant, les questions des auditeurs, questions qui traduisent finalement l'inquiétude quand même, très forte. Là, on n'a pas, c'est pas gagné, c'est pas la Russie. L'inquiétude très forte quand même des Français, des auditeurs, même de Radio Courtoisie par rapport à la Chine. Donc là, vous allez avoir des questions qui ne sont pas obligatoirement tout à fait...
Ah, mais c'est normal, on est là pour ça.
Voilà. Merci Nicolas pour cet échange passionnant avec M. Michelon. La Chine s'est assurée une suprématie démographique, intellectuelle, économique. De notre côté, nous n'avons plus les armes pour lutter. Suicide démographique, éducation abrutissante, industrie laminée. Question, comment survivre face à cet asservissement commercial ?
Alors j'imagine que c'est un asservissement, enfin c'est perçu comme un asservissement commercial vis-à-vis de la Chine.
Je pense.
Voilà. Bien, comment survivre ? Je dirais, c'est tout l'objet de mon livre, parce que mon livre parle de la Chine, mais le message que je souhaite faire passer par ce livre, c'est qu'en fait, on doit s'inspirer, la France doit s'inspirer de la façon dont la Chine a préservé sa souveraineté. Effectivement, moi, je suis pas non plus pour qu'on se retrouve qu'avec des produits chinois ou made in China en France. Mm-hmm. C'est pas du tout un objectif. Ça serait un signe effectivement de colonisation commerciale. La France souffrirait finalement d'une colonisation idéologique, une colonisation numérique aux États-Unis et une colonisation commerciale vis-à-vis de la Chine. C'est pas du tout l'objectif désiré, en tout cas pour des gens comme moi. Mais il faut s'inspirer de la façon dont la Chine a justement réussi à préserver sa souveraineté contre les attaques de l'Occident. Parce qu'il faut bien voir que l'Occident a essayé pendant une quarantaine d'années de faire rentrer la Chine dans le camp en fait occidental, un peu comme ils ont fait en Russie à l'époque de Yeltsin. Et la Chine a dit en 2017, Xi Jinping l'a dit, il a dit, nous ne serons jamais une démocratie libérale, ça ne nous intéresse pas. Et c'est à partir de là qu'en fait les hostilités ont commencé, parce qu'il faut voir que l'Occident, les États-Unis et l'Europe faisaient énormément d'argent avec la Chine depuis 1978 jusqu'à 2018. On a décidé d'arrêter d'avoir une relation win-win avec la Chine parce qu'il y avait une question idéologique derrière. De George Bush et Bill Clinton l'avaient dit. Ils avaient dit, quand on a laissé rentrer la Chine à l'OMC en 2001, l'objectif de l'Occident, c'était de, en fait, il le disait, il disait, il n'y a aucun pays au monde qui a réussi à adopter le capitalisme tout en laissant la démocratie à la frontière. L'idée, c'était en fait de coopter la Chine économiquement par le capitalisme pour la forcer à un changement de régime et en mettre un régime qui serait, on va dire, pro-américain ou, oui, ou en tout cas pro-occidental, et puis que toutes les sociétés chinoises finalement aillent se mettre sur Wall Street et puis tout allait bien, quoi. Donc pour nous, la France, il faut se, et l'Europe en général, mais il faut s'inspirer de ce qu'a fait la Chine pour préserver sa souveraineté et pour la renforcer. Et la souveraineté, en France, malheureusement, c'est souvent lié à des questions d'immigration, de frontières et des choses comme ça. Alors, c'est important, évidemment, mais s'il n'y a que ça, ça ne sert à rien, en fait. D'autant qu'on a vu que, sur les questions d'immigration, ce n'est plus nous qui décidons. La souveraineté, la première à restaurer, c'est la souveraineté monétaire. C'était Chevènement, je crois, qu'il l'avait annoncé avant le passage à l'euro. Il avait dit, une fois qu'on sera passé à l'euro, ce ne sera plus la peine de parler de souveraineté dans aucun domaine parce qu'on l'aura perdu. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement récupérer. Et ça résoudrait énormément de problèmes, notamment ceux dont on parle en ce moment avec la loi sur les accélérateurs industriels, parce qu'on nous dit, cette loi-là, en fait, elle est faite pour rétablir le commerce. On va dire la balance commerciale entre la Chine et l'Europe, parce qu'elle est déséquilibrée. Et elle est déséquilibrée, effectivement. On a un déficit commercial avec la Chine tous les ans de entre 200 milliards d'euros et 400 milliards d'euros selon les années. Donc c'est vrai qu'il faut le rétablir, mais avant, on avait un outil pour rétablir ça. Ça s'appelait la dévaluation. On dévaluait notre monnaie par rapport aux autres monnaies et ça rétablissait la balance commerciale. Ça, on ne l'a plus depuis le passage à l'euro. Donc on ne peut pas blâmer la Chine. On lui dit, oui, mais la Chine, le yuan est dévalué. Alors, Christine Lagarde nous dit 30%, d'autres personnes disent non, c'est plus 15%. Alors, effectivement, le yuan est dévalué environ de 15% par rapport à l'euro et par rapport au dollar US. Première chose, il s'est surévalué, les Chinois ont laissé glisser depuis à peu près un an. Il est en train de monter par rapport à l'euro et au dollar US. Mais les Chinois ont cette arme souveraine de la dévaluation, pourquoi ils s'en passeraient ? C'est pas parce que nous, on a décidé d'abandonner une arme qu'on doit demander à l'adversaire de faire la même chose. Mmh. Dépose ton revolver, pourquoi ? Donc ça, c'est la première chose. Nous avons abandonné un outil de souveraineté qui empire la situation sur la balance commerciale. Donc c'est la première chose. Alors là, on rentre sur la question de la sortie de l'euro. Alors je sais pas comment se positionnent vos auditeurs là-dessus, mais c'est une vraie question qu'il faut se poser. C'est, est-ce qu'on reste dans l'euro ? Est-ce que l'euro, finalement, c'est pas un Deutschmark dévalué ? Parce que ça n'a profité qu'à l'Allemagne. Donc, pourquoi est-ce que nous, Français, qui étions dans les années 90, 55 millions de personnes, et on avait notre propre industrie nucléaire, civile et militaire, notre aviation civile et militaire, on avait le Concorde, on avait trois marques de voitures qui s'exportaient partout dans le monde, mmh, on avait notre propre marque d'ordinateur, dont M. Breton s'est occupé, Bulle, avec le succès qu'on connaît. Et on avait tout ça, on était un petit pays, mais très souverain. Donc on avait une économie planifiée, hein, il y avait un commissariat au plan, alors je ne parle pas celui de Béroux, mais celui vraiment de l'époque gaullienne, qui a permis tous ces succès. Et c'est à partir du moment où on est passé dans le suivisme vis-à-vis des États-Unis et puis l'euro, que tout ça s'est effrité. Donc en fait, je dis, mais en fait, ce n'est même pas la peine de s'inspirer de la Chine. Mais la Chine n'a fait que regarder en fait ce qu'a fait la France, elle l'a appliqué avec encore plus de succès. Mais nous, on avait ces solutions-là, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais de regarder un peu ce qu'avait fait le général de Gaulle au niveau industriel, et puis de se détacher de cette Europe, parce qu'il faut bien voir que l'Europe, dans tous les domaines, même les domaines où on n'a pas de champion en Europe, par exemple les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, il n'y a personne en Europe dans ces domaines-là. Mais l'Union européenne continue à faire des lois, elle légifère sur ces domaines-là, pour empêcher en fait les solutions chinoises d'arriver et de prendre le marché avant que les solutions américaines puissent prendre... voilà. Donc en fait, il s'agit de bloquer l'accès du marché aux Chinois pour laisser la porte ouverte aux solutions américaines. Donc nous sommes une colonie numérique américaine, nous sommes une colonie idéologique américaine, hein, toutes ces questions de wokisme et tout ça, ça vient des États-Unis. On l'a pris sans trop réfléchir. On est de plus en plus une colonie alimentaire. On voit les produits ukrainiens, les produits du Mercosur rentrent en complète, on va dire, violation même des principes de l'Union européenne eux-mêmes. Et donc, il y a une vraie question à se poser sur la souveraineté, parce que on a les talents en France pour redevenir souverain dans tout un tas de domaines, le domaine alimentaire, le domaine technologique, mais le problème, c'est qu'on a une espèce de censure européenne qui en fait nous empêche de nous réaliser complètement. Voilà. Donc je dirais, arrêtons de regarder la Chine comme un ennemi potentiel ou comme c'est pas la faute des Chinois si ce sont les seuls à avoir une chaîne de production et une chaîne d'approvisionnement complètement intégrée qui fait qu'ils peuvent avoir des produits de bonne qualité, pas chers. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le refaire, nous, à l'identique? Et moi, je suis pour. J'achèterais du Made in France demain si on le faisait en France à un même niveau de prix et à un même niveau de qualité. Mais c'est juste que pendant 40 ans, on a délocalisé nos industries chez eux pour des questions idéologiques, là encore. Pollution, droit du travail, des choses. Parce que nous avons un droit du travail qui est contraignant, il y a un coût du travail qui est trop haut, il y a une énergie qui est trop cher, donc on ne peut pas être compétitif. Mais toutes les raisons de la compétitivité chinoise, il faut regarder, nous, c'est nous qui avons créé les conditions de notre déclin. Voilà. La Chine, pour l'instant, on devrait être content, parce qu'ils continuent à nous vendre des produits pas chers. On ne va pas en plus leur demander de nous vendre des produits chers. Voilà. Et par contre, il faut se poser la question, pendant 40 ans de délocalisation, les boîtes européennes sont parties en Chine pour faire moins cher, mais nous, on a vu les prix baisser? Non. C'est les marges qui ont augmenté. Les marges des sociétés qui ont augmenté. Nous, on n'a pas vu de prix baisser. Or, ils ont baissé le coût du travail par 3 ou par 4 quand ils sont allés en Chine. Mais nous, on a continué à payer de plus en plus cher. Voilà.
C'est vrai. Là, vous avez une auditrice qui pose des questions dérangeantes. Émission qui donne à penser contre soi-même. J'aurais plusieurs questions. Votre invité, alors déjà, trouve-t-il normal que la France verse 200 millions d'euros par an à la Chine pour l'aide au développement?
Non,
on avait entendu parler, c'est une absurdité. Ça.
Bien sûr que oui, voilà. Et puis c'est une absurdité qui va s'arrêter. Je crois que ça s'arrête l'année prochaine.
Oui,
voilà, donc c'est tout à fait normal, c'est une absurdité. Mais enfin, c'est 200 millions d'euros.
Oui.
Après, il y a combien de milliards qui partent en Ukraine? Voilà.
C'est vrai. Que pense votre invité du rôle de Raffarin dans le partenariat? C'est ce Raffarin qui écrase avec son chauffeur et son gyrophare des scooters dans Paris.
Ça n'a pas grand rapport avec la Chine, à part le fait que Raffarin, effectivement, a une bonne relation avec la Chine.
Oui, c'est ça.
Avec la Chine. En plus, il faut un peu, relativiser tout ça, parce que la bonne relation de Raffarin avec la Chine, elle est plus dans la tête des Français que dans la tête du gouvernement chinois. Effectivement, Raffarin qui dit être... qui est mandaté par Macron pour des missions en Chine, ce qui justifierait l'utilisation d'une voiture avec chauffeur, c'est plus un moyen de se faire mousser pour Raffarin. Mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que lui, hein, des anciens politiciens qui fricotent avec la Chine, il y en a pas mal, mais c'est pas du côté chinois, ils prennent ce que Raffarin va leur amener. Alors si effectivement Raffarin va faciliter une présentation d'un projet avec une administration quelconque en France, faciliter un peu un processus, ils vont le prendre, il n'y a pas de raison de... Voilà. Mais je ne pense pas que Raffarin soit stipendié par les Chinois. Je pense savoir qu'il essaie de se placer sur des deals entre des sociétés françaises et la Chine. Il y a rien d'illégal, hein. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire peut-être. Mmh. Mais bon, si on découvre qu'il y a quelque chose d'illégal, ben il faut faire quelque chose. Mais voilà, c'est un ancien homme politique qui joue de ses connexions dans son propre pays, et puis la Chine qui se dit vois ce que tu peux faire, et puis si tu nous amènes quelque chose de bien, pourquoi pas.
Je crois qu'il a fait HEC à l'origine. Donc...
Oui.
Alors là, par contre, la suite de des observations de notre auditrice. Moi, j'aurais pu y répondre en partie, mais je vais me
je compléterai.
Taire. Non. Je vais éventuellement, j'ajouterai quelque chose si nécessaire par rapport à ce que tu vas dire. Mais ça, c'est important, mais en même temps, il faut quand même le relativiser. Que penser, donc, d'un régime, le chinois, qui a hérité du plus grand nombre de morts au XXe siècle. Doit-on passer l'éponge ? Mao sur la place Tiananmen me choque terriblement. Mais vous allez invoquer la réelle politique.
Ah. Ben non, je ne vais pas invoquer la réelle politique. D'abord, je vais contester ces chiffres, parce que ces chiffres sont faux. Quand on dit les 100 millions de morts du communisme, le bouquin de je ne sais plus trop qui, Marc Lazare ou un truc comme ça, c'est faux. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. C'est un chiffre qui est avancé comme ça. Il y a eu des errements du maoïsme clair et net. Les Chinois sont tout à fait au courant. Ils ne sont pas dans la propagande où on leur a dit que c'était un grand leader et qu'il ne s'était rien passé. Effectivement, le grand bond en avant, il y a eu une catastrophe humaine derrière parce qu'il y a des gens qui mouraient de faim. La révolution culturelle, c'était une lutte de pouvoir qui, effectivement, a échappé à Mao. Et il faut savoir que dans les deux cas, Mao, ce qui arrive d'ailleurs souvent, même chez nous, c'est un leader qui est entouré de gens qui cachent en fait la réalité du pays. Donc Mao a été quelqu'un qui a été isolé ou qui s'est isolé puis qui a été isolé par son entourage et donc n'a pas forcément vu l'ampleur de la catastrophe. Toujours est-il que d'abord un, c'est pas 100 millions de morts, on ne sait pas combien c'est d'ailleurs, il n'y a personne qui est capable d'avancer ni même les Chinois hein, d'avancer un chiffre fixe. Cela dit, les Chinois absolument tous le révèrent. Vous montez dans n'importe quel taxi, il y a une statue de Mao. Vous rentrez dans un bureau de n'importe quel directeur d'entreprise ou cadre d'entreprise, il y a un portrait de Mao, il y a une assiette en faïence avec la tête de Mao. Il est partout. Et ça, ce n'est pas un résultat de la propagande. Il y a des magasins qui vendent ces choses-là. Les gens les achètent eux-mêmes. Voilà. Parce que, effectivement, malgré les errements et les catastrophes, il y a une chose que les Chinois n'ont pas oubliée, c'est que c'est Mao qui a sorti la Chine du féodalisme dans laquelle l'Occident l'avait plongé avec les guerres de l'opium. Hein ? Donc, il faut bien se rappeler ça. Il n'y a pas de Chine moderne sans Mao Tse-tung. C'est Mao Tse-tung qui a posé les bases pour qu'il y ait la possibilité ensuite d'une réforme économique par Deng Xiaoping. Sans Mao, la Chine était encore sous occupation japonaise, la Chine était encore dirigée par des dirigeants corrompus du Kuomintang, qui était en fait une espèce de nomenclatura comprador qui mangeait à tous les râteliers. Donc Mao est révéré parce que c'est celui qui a sorti la Chine du féodalisme, qui a établi les bases avec en cassant plein d'œufs, hein, il l'avait dit, de toute façon la révolution ça se fait pas sans casser les œufs, mais il a remis un pays sur pied et il a donné à ses successeurs la possibilité il a eu un pays souverain sans influence extérieure, et il a donné la possibilité à ses successeurs d'en faire ce que c'est arrivé aujourd'hui. Dernier point là-dessus, moi, Mao sur la place Tiananmen, ça n'a pas à me choquer ou à me satisfaire, parce que je ne suis pas chinois. Donc laissons les Chinois révérer qui ils ont envie, c'est leur leader, c'est leur histoire, et ça n'a pas à nous plaire ou à nous déplaire.
Ben ça, c'était ouais. Sur ce dernier point justement que j'avais envie d'intervenir par rapport à cette auditrice. Je pense à titre personnel, mais après tout, je connais finalement bien mal le sujet, que Mao est un de ces grands monstres dont le XXe siècle a accouché, comme Staline ou Hitler. Ça, là-dessus, moi, j'ai guère de doute. Je suis moins tendre avec ce qu'il fut. Après, par contre, bien sûr, ça a rien à voir avec la réelle politique, chère auditrice. Est-ce que, encore une fois, mêlons-nous de ce qui nous regarde, en effet, et les Chinois ont le droit de révérer qui ils veulent. Qu'est-ce qu'on va ? On va, alors, c'est la République des Mollahs, on va balancer une bombe nucléaire sur l'Iran. Et à ce moment-là, est-ce qu'il faut dire aussi que la Russie de Poutine est une héritière directe du stalinisme ? Et à ce moment-là, balancer des bombes nucléaires sur la Russie de Poutine, ou alors vous allez me dire, ah oui, mais dans un cas, c'est l'héritier, pas dans l'autre. Et le nazisme, je dirais déjà qu'il y a une grosse différence, je suis désolé, entre le nazisme d'un côté et le maoïsme ou le stalinisme de l'autre, c'est que dans un cas, il a mis à feu et à sang la planète, c'est Hitler. Et vous en avez d'autres qui, certes, ont fait ce qu'ils ont fait en Russie ou en Union soviétique et en Chine, mais qui concernent en effet un problème intérieur. Donc je crois que cette idée d'un Occident qui doit continuer à faire des leçons de morale et à régler les problèmes du monde entier et à s'immiscer dans les affaires intérieures, je pense qu'il y a quelque chose comme cela qu'il nous faut absolument, alors là pour le coup... absolument sortir, se sortir de l'esprit. Et ça n'a rien à voir avec la réelle politique. Tout à fait. Arrêtons d'imaginer que nous pouvons donner des leçons de morale à qui que ce soit. Nous qui avons fait Hiroshima et Nagasaki, nous qui avons fait Dresde, nous qui... Non, ça suffit. Ça, c'est justement... S'il y a bien quelque chose qu'il faut arrêter, c'est ça. Pour le reste, je partage avec vous, moi, plus le fait qu'en effet, je n'ai aucune révérence pour Mao, mais si, comme le dit Laurent Michelon, vous avez des portraits de Mao partout, bah qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ouais, ça, hein ?
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce que vous voulez y faire ?
Et puis on a eu des gens en France qui révéraient Mao à l'époque, l'époque du maoïste.
C'est pas les meilleurs, à mon avis.
C'est les pires. C'est les pires, même. Mais c'était à Saint-Germain-des-Prés, Mao était un héros, hein, il faut le savoir, dans les années 70. Et c'est un grand écrivain, un grand sinologue français, enfin belge en fait, Simon Lesse, en fait, de son vrai nom Pierre Hickmans, qui avait écrit un livre où il expliquait en fait au sinologue germano-pratin, mais qu'ils ignoraient tout de la révolution culturelle, que c'était un drame, et donc à ce titre-là, il a été exclu, il devait enseigner au Collège de France, et il a été blacklisté, et il a dû aller enseigner, s'expatrier, il a été banni en Australie, et donc voilà les effets de la censure aussi occidentale. Hein, où c'est pas la même sorte de censure que la censure chinoise, mais on a aussi une censure intellectuelle chez nous. On interdit aux gens qui partagent leur avis, qui ont une vraie expertise sur la Chine. Eh bien, ce monsieur avait été excommunié parce qu'il avait eu l'outrecuidance de se moquer des maoïstes germano-pratins.
Ouais. Alors, cet auditeur qui vous met à l'amende, Laurent, peut-être là pour le coup a-t-il raison. La guerre, quand vous dites que la Chine n'a pas fait de guerre, là, même si il est bien vrai qu'elle en a fait beaucoup moins que les Gémeaux américains, il rappelle quand même cette auditrice, rappelle la guerre courte qui oppose le Vietnam à la République populaire de Chine du 17 février au 16 mars 1979.
Tout à fait. C'est beaucoup plus long que ça, en fait. Hein. Ça s'est perpétué jusque dans les années 80. C'était une guerre. Je connais des gens qui l'ont faite, personnellement. Oui. Soldats sur le front, il y en a un qui a perdu une jambe. Mais il faut regarder cette guerre en fait dans la confrontation sino-russe en fait. Il s'agissait pour la Chine c'était une expédition punitive avec aucune ambition territoriale. Hein. Il s'agissait pas de saisir des territoires. La Chine est ressortie aussi vite qu'elle est rentrée. C'était une expédition punitive en fait pour le soutien que faisait le Vietnam avec l'assistance russe sur ses ambitions vers le Cambodge. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été très court. C'est quelque chose qui a été une erreur, qui est reconnue.
Très court, mais extrêmement violent, qui a tué énormément.
Oui, je crois qu'il y a 200 000 morts.
Oui, il y a eu un déchaînement, entre autres des artilleries qui ont détruit.
Oui, pour amener de l'eau au moulin de l'auditrice, comme je disais, ça s'est pas arrêté en 79, ça a continué jusqu'en 1983 ou 84. C'était des escarmouches par-ci, par-là. Voilà. Bon. Les Vietnamiens comme les Chinois ont enterré ça. On a vu Xi Jinping qui a rencontré le nouveau président vietnamien récemment, et ils ont dit c'est un épisode de notre histoire malheureux, mais c'était la guerre froide, c'était une rivalité sino-russe au Vietnam, et voilà. Et puis ouais. Alors il y a toujours une méfiance des Vietnamiens pour les Chinois, mais ça date pas de 79, ça date il y a très longtemps. Mais voilà, on passe par dessus. C'est pas une guerre de conquête, c'était pas
Oui, c'est pas une guerre de conquête. Très bien. Alors, il nous reste moins de 5 minutes, mais j'aimerais qu'en 3 minutes, si vous le pouvez, Laurent, vous nous parliez un petit peu de cette loi chinoise sur l'unité ethnique, fortement dénoncée, dites-vous, en Occident.
Alors oui, c'est une loi qui a été passée récemment. Je vais faire un parallèle assez... assez grossier, mais pour les auditeurs d'un certain âge, on doit tous se rappeler de la loi Toubon en France. C'était la loi sur l'obligation de l'utilisation du français dans l'espace public. Ouais. On m'a arrêté de mettre de l'anglais partout sur les magasins. Et cette loi n'a jamais été appliquée, comme on peut le voir à Paris. Mais c'était aussi la prédominance du français dans les régions, la prédominance du français dans les médias. C'est des mesures en fait qui étaient de
préservation. On essaie de le faire respecter sur Radio Courtoisie. Même là, c'est dur.
Exactement.
Je vous ai entendu dire tout à l'heure « win-win ». Alors voilà. Je n'ai rien dit parce que les auditeurs me grondent.
Gagnant.
Voilà, final, j'ai entendu le museau du cochon frémir.
Exact. Mais voilà, donc cette loi Toubon imposait l'utilisation du français dans l'espace public.
Et là, c'est un peu la même chose qui se passe, parce qu'il faut savoir que la Chine, c'est un pays qui a 56 groupes ethniques reconnus. Oui. En fait, il y en a beaucoup plus que ça, mais ils ont été regroupés en 56 groupes ethniques. Et dans les régions, on va dire, les marches du territoire chinois, donc la Mongolie, le Xinjiang, le Tibet, toutes ces régions, même le sud de la Chine avec des minorités ethniques, eh bien, ce sont ces régions-là qui sont utilisées, en fait, par les hégémons anglo-américains pour déstabiliser la Chine sur des questions ethno-religieuses. Donc, on connaît l'histoire des Ouïghours, on connaît l'histoire de la Mongolie aussi, on connaît l'histoire du Tibet. Et donc, la Chine impose dans ces régions-là l'utilisation du chinois mandarin comme langue principale. Mais évidemment, les médias occidentaux utilisent ça en disant, mais en fait, voilà, c'est un génocide culturel, ils sont en train d'interdire aux gens de parler leur langue. C'est faux. Là encore, j'invite vos auditeurs à se rendre en Chine. Il n'y a plus besoin de visa depuis 2 ans pour aller en Chine. Donc vous pouvez y aller au Xinjiang, aller au Tibet, aller en Mongolie, et vous verrez que l'usage de la langue locale est très vivace dans les écoles, dans les médias, dans l'espace public, tout est en double langue, mais effectivement avec une prédominance du chinois mandarin parce qu'on est en Chine. Voilà. Donc il n'y a pas de raison de se choquer, il n'y a pas de génocide culturel ou quoi que ce soit. C'est bien moins grave que ce qui a été fait par la République française dans les régions à une certaine époque.
Exactement.
Hein, où les langues régionales ont été quasiment poncées. C'est pas là. Mais justement, comme je dis toujours dans l'introduction de mon bouquin, toutes les accusations qu'on fait contre la Chine sont en fait des inversions accusatoires. C'est ce que nous, Occidentaux, avons déjà fait, dont on accuse la Chine d'être coupable. Voilà.
Exactement, et je pense que c'est inspirant d'ailleurs cette loi, et la Chine montre en plus de toute façon un développement qui est le sien, et on sent vraiment que c'est tout ça vient du cœur de la Chine, du centre de la Chine, et c'est trop tard en plus, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que c'est trop tard pour modifier cela, à moins de rentrer dans l'holocauste nucléaire. Il n'y aura pas de solution.
Dont on ne sortira pas gagnant, de toute façon.
Ouais. Mais dont personne ne sortira gagnant. De détruire, de faire sauter la planète. Donc là, ça sera du perdant-perdant. Exact. C'est le cas de le dire. Donc voilà, c'est important de penser justement cette Chine. Donc je vous recommande vraiment, chers auditeurs, le livre de Laurent Michelon, Comprendre la relation Chine-Occident. Et puis ce livre qui viendra et qui permettra aussi de mieux comprendre la Chine. Elle est à l'autre bout, mais on a absolument besoin, dans ce continent eurasiatique auquel nous participons, besoin de comprendre ce qui se passe en Chine, et arrêtons de le regarder sous le prisme américain.
Tout à fait.
Anglo-américain.
Tout à fait, on a la chance d'avoir une très grande sinologie en France, voilà.
Exactement.
Établissons la relation avec la Chine selon nos propres termes, pas les termes anglo-américains.
Absolument. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Laurent Michelon pour la participation à ce libre journal de Géopolitique Profonde. C'était un plaisir. Je remercie encore Mickaël qui a parfaitement réussi son baptême du feu, Patrice qui était au standard. Et puis, je crois que nous retrouvons maintenant Mike Borowski pour le libre journal des controverses. Bonne journée, chers auditeurs et de Radio Courtoisie. À la semaine prochaine.
Et d'entendre Géopolitique Profonde, dirigé par Nicolas Stocker, diffusé sur Radio Courtoisie ce samedi 11 juillet 2026 de 9h à 10h30 et réalisé par Mickaël. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent à notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.